Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Mais lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi et nous donner de recevoir l'adoption des fils. Mes très chers frères, en ce dimanche, de ce dimanche dans l'octave de la Nativité de notre Seigneur, nous délivre un enseignement fondamental sur le mystère que nous avons célébré il y a quelques jours et qui nous a tant réjouis. Ouvrons nos oreilles et les oreilles de notre cœur, mes très chers frères, à la parole de Dieu que nous enseigne l'Église, car il y a des choses très importantes que nous devons rappeler et que nous devons connaître. Avec l'aide du Saint-Esprit, dans un premier temps, nous parlerons du contexte hors duquel on ne comprend guère la doctrine chrétienne de la rédemption. Ce qui nous mettrait dans une situation très embarrassante, puisque nous sommes chrétiens et nous sommes justement les rachetés du Christ. Dans un deuxième temps, et notre deuxième et troisième point consisteront à parler de la double efficace de la grâce du Messie, telle que nous l'enseigne saint Paul dans l'Épître aux Galates d'aujourd'hui. Tout d'abord, le Christ nous rachète, ou rachète ceux qui sont sous la loi de Moïse. Et dans un deuxième temps, il nous obtient l'adoption des fils. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, voyons tout ceci, mes très chers frères, sans tarder, car cela est très important. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous avons, disais-je, fêté tous ensemble la fête de la Nativité de notre Seigneur. Il y a quelques jours, nous sommes réjouis de voir l'enfant Jésus placé dans la crèche, symboliquement, le voir naître dans nos cœurs après l'avoir attendu pendant tout le temps de l'Avent. Maintenant, il nous faut aussi posséder la doctrine, autant que possible, la doctrine qui correspond à la fête de Noël. Sans cela, on se perd, on ne comprend plus rien, et ne comprenant plus rien, on finit par trouver toute la religion absurde, ce qui est quand même un comble. Saint Paul nous dit ceci, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, etc. etc. Lorsque fut venue la plénitude des temps, vous savez, mes très chers frères, que notre Seigneur ne pouvait pas naître avant le jour où il est né, le temps où il est né, il ne pouvait pas naître après. Parce que le temps où il est venu correspond au temps annoncé par les prophètes, et spécialement le prophète Daniel, avec la prophétie des semaines, de l'apparition du Messie, de son rejet par son peuple, de sa mort et de la destruction de la ville sainte. Sans entrer dans les détails, disons que la destruction du second temple, en l'an 70, marque la fin d'une ère, ère qui est marquée elle-même par le commencement d'une autre ère suite à l'envoi du Messie, l'apparition du Messie. Quand on lit le prophète Daniel, on ne peut nier que le Christ soit véritablement le Messie, de telle sorte que les Juifs actuels sont bien embêtés lorsqu'ils doivent essayer de rendre compte des prophéties de Daniel. Alors, je ne sais pas exactement comment ils le font, en tout cas, ils le font d'une manière ou d'une autre qui ne correspond plus avec la précision chronologique qui se trouve dans le livre de ce grand prophète. Maintenant, il se trouve que non seulement le Messie a été rejeté par son peuple, non seulement la ville sainte a été détruite suite au rejet du Messie par son peuple, mais encore, et nous trouvons cela dans la prophétie d'Isaïe, le Messie a, par sa mort, donné la vie à un grand nombre de ceux qui sont appelés sa postérité. Il connaîtra une nombreuse postérité. Il a offert sa vie en sacrifice à son Père, de telle sorte qu'il a racheté les élus. C'est pour cela que lorsque saint Paul dit « Lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé donc de la Vierge Marie, il a envoyé son Fils afin d'accomplir son dessein rédempteur. Dessein rédempteur qui se réalise une fois que le Christ est né, qu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité, qui se réalise par le don de la grâce que l'on appelle la grâce du Rédempteur, donc la grâce du Christ, à ne pas confondre, je le répète, des fois qu'il y aurait des gens ici qui n'auraient pas entendu d'autres discours, d'autres sermons que nous avons faits, qui la grâce du Christ n'est à confondre avec aucune autre grâce. Ce n'est pas une grâce générale, ce n'est pas une grâce qui vient du Créateur, loin de là, c'est une grâce qui vient du Dieu Rédempteur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la grâce que Dieu nous accorde par les mérites de son Fils bien-aimé, mort et ressuscité pour nous. Ce n'est pas n'importe quelle grâce. Pour comprendre la grâce du Christ et son efficace, il faut nécessairement la situer au regard de la loi de Moïse. Et c'est pour cela que saint Paul dit « Ainsi nous-mêmes, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi et nous donner de recevoir l'adoption des fils. » Il y a quelque chose ici de difficile. Si nous demandons aux catholicoïdes moyens d'expliquer cette épître ou de nous rendre compte un peu du sens de cette épître, que va-t-il nous dire ? Je parle du catholicoïde, c'est-à-dire du moderne. Il va nous dire, eh bien, l'Ancien Testament, ce n'est pas le sommet de la révélation, loin de là. Le Christ est venu pour mettre un terme un peu à tout ce qui se faisait autrefois et qui était un peu n'importe quoi. Et il se trouve que maintenant, c'est bien mieux. Et que tout est fait maintenant pour que nous soyons heureux, que nous vivions sur la terre et que nous aimions Dieu, et puis qu'un jour nous allions au ciel. Alors, il y a certains éléments de vérité dans cela, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit qui soit emprunté à des religions non chrétiennes, mais du point de vue de la précision, on pourrait faire mieux. Et je dirais même que cette façon de parler fait que celui qui parle témoigne, ou bien qu'il est totalement ignorant, et alors c'est une honte pour ses pasteurs, ou bien tout simplement, et plus probablement, qu'il n'appartient pas à la religion catholique, puisqu'il n'en a même pas, il n'en possède même pas les rudiments. Cela dit, cette épître est difficile, mais vous remarquez, mes très chers frères, cette épître, nous l'avons et nous l'entendons génération après génération, année après année, génération après génération, siècle après siècle, millénaire après millénaire, si j'osais dire, depuis plus de 1000 ans, nous entendons cette épître difficile que l'Église doit nous exposer, nous interpréter par la bouche de ses pasteurs légitimes. Nous ne pouvons rien comprendre ni à la personne, ni à la mission, ni à la grâce du Messie, si nous ne comprenons pas ce qu'est la loi de Moïse. Et saint Paul nous dit que la loi de Moïse est un pédagogue, c'est-à-dire elle est un tuteur, disons, qui prend soin de nous, d'une façon très spéciale, tant que nous sommes dans l'enfance. Autant de mots, autant de pièges pour les modernes. Il n'en a pas toujours été ainsi, mes très chers frères, mais nous vivons en modernité, et la modernité se caractérise non seulement par une dégénérescence mentale absolue, mais en plus, et surtout, si ce n'était que ça, bon, mais surtout par une falsification de la doctrine chrétienne. Je ne dis pas falsification des textes, etc., mais une adultération de sa compréhension pour la remplacer par quelque chose d'autre, nous en parlons de temps en temps, quelque chose d'autre qui triomphe actuellement et qui fait des ravages, évidemment, depuis très longtemps, depuis au moins un bon gros siècle. Alors, qu'est-ce que la loi de Moïse ? La loi de Moïse est un pédagogue, c'est-à-dire un éducateur spécialisé, si j'ose dire, c'est-à-dire un éducateur attaché à un enfant. Cet enfant, c'est l'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme tel qu'il descend d'Adam et d'Ève, nos premiers parents, après la chute. C'est les descendants de Caïn qui sont tous morts dans le déluge. C'est les descendants de Seth, donc, qui sont les petits-fils de Noé, qui descendent de Sem, Cam et Japhet, les trois fils de Noé qui sont sortis de l'arche avec lui. C'est toute l'humanité telle que nous la connaissons, mais il se trouve que dans cette humanité telle que nous la connaissons, c'est-à-dire l'humanité déchue, Dieu a élu un homme, Abraham, pour en faire le chef d'une famille, puis d'un peuple, qu'on appelle le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et c'est à lui qu'a été donnée la promesse qui a été faite en dernier, en quelque sorte, la promesse générale faite par notre Seigneur, par le Seigneur Dieu à nos premiers parents d'un rédempteur. Un rédempteur qui devait venir, mais il ne devait venir que plusieurs millénaires après la chute. Pourquoi tant de temps? Pourquoi aussi, Abraham, c'est environ 2000 ans avant notre Seigneur, Moïse, mettons, c'est à peu près 1500 ans avant notre Seigneur. Pourquoi tant de temps entre la promesse réitérée, la constitution du peuple de Dieu, donc du peuple élu, du peuple appelé par Dieu, pourquoi tant de temps? Eh bien, mes très chers frères, ce temps, cette longueur de temps, était nécessaire pour nous, pour faire prendre conscience à l'humanité de son absolue impossibilité de se sauver sans la médiation d'un rédempteur. Ce n'est pas que l'homme avait totalement oublié la promesse du rédempteur, mais il s'est empressé, sans entrer dans les détails, de se faire toutes sortes de rédempteurs, de se donner toutes sortes de dieux, d'adorer les étoiles, le soleil, la lune, de forger des dieux, d'adorer les grands hommes pour en faire des héros puis des dieux. Il s'est fait toutes sortes de dieux qui étaient moins des rédempteurs que des maîtres auxquels il fallait plaire pour obtenir ce qu'il fallait ici-bas. On sacrifiait des animaux, on sacrifiait même des fois des hommes, même des femmes, des enfants, pour obtenir des récoltes, pour obtenir la pluie, pour obtenir autant d'abominations. Car si, bien sûr, Abel et même Caïn, au commencement, offraient des sacrifices, c'était pour se rendre Dieu propice dans une perspective spirituelle. Caïn a été le premier à inaugurer des sacrifices d'ordre purement matériel, qui demandaient des choses pour le temporel, alors qu'Abel offrait à Dieu de ses propres dons. Ensuite, longtemps après le déluge, l'homme s'est à nouveau révolté contre Dieu, il s'est fait des dieux, et il a essayé de concilier ces dieux pour vivre mieux, pour être puissant, que sais-je. C'est le drame de la gentilité, c'est-à-dire des peuples païens. Parmi tous ces peuples, parmi tous ces hommes, Dieu a choisi Abraham, il l'a sorti, fait sortir de sa patrie, il s'est révélé à lui comme étant le vrai Dieu, qui était le Dieu de Noé, qui était le Dieu de toute la lignée de Seth, qui était le Dieu d'Adam, le vrai Dieu, et à partir de lui, une famille, puis un peuple, n'a plus oublié qui était le vrai Dieu. En Égypte, les Hébreux avaient failli oublier qui était le vrai Dieu, puisque même s'ils criaient à lui, Moïse a dû leur révéler le nom de Dieu, « Je suis celui qui est », l'Éternel. Maintenant, à Moïse, la loi a été donnée sur le mont Sinaï, lorsque les Hébreux furent enfin sortis d'Égypte, de la servitude de l'Égypte. Ils ont passé la mer Rouge, ils sont rentrés dans le désert, et là, Dieu, sur le mont Sinaï, a donné la loi à Moïse. Après qu'il leur eut donné la loi, il leur a demandé s'ils l'acceptaient. Et ils l'ont accepté. Et c'est pour cela que les Juifs actuels disent que le peuple juif est moins un peuple élu, comme s'il était élu par hasard, que le peuple choisi par Dieu, car il a été le seul peuple qui a accepté la loi de Moïse. Dans un certain sens, nous ne leur contestons pas. Dans un autre sens, saint Paul et les commentateurs, les pères, nous disent que le peuple a bien fait d'accepter la loi de Moïse, mais il a oublié une chose. Il a oublié une chose, et Dieu, nous dit saint Paul, je paraphrase, ne leur a pas fait remarquer, car cela rentrait dans son plan. Ils ont dit, nous nous engageons à obéir à toutes les prescriptions, tous les commandements, toutes les lois qui ont été énoncées dans cette loi que Moïse nous a donnée de la part de Dieu sur la montagne. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de faire un veau d'or et de l'adorer. Il suffit de lire la Bible de façon chronologique pour s'apercevoir que c'était le cas. Ils ont oublié quelque chose. Ils ont pris sur eux d'obéir à la loi. Or, la loi est faite pour nous révéler qu'il y a quelque chose dans l'homme depuis la chute, quelque chose d'invincible, quelque chose d'impitoyable, quelque chose de terrible, qui s'appelle la concupiscence, et qui n'est pas une petite chose. La concupiscence est invincible dans l'homme. La concupiscence n'exclut pas les bons désirs, même une certaine amorce de bonne volonté. Oui, nous nous engageons à obéir à tous les commandements de Dieu. Mais immédiatement après, quand Moïse disparaît sur la montagne, dans un colloque avec Dieu, les Hébreux, ne le voyant plus revenir, se font un veau d'or, l'adorent en disant « Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ». Le seul Dieu qui nous importe, c'est le Dieu qui nous garantit la liberté, qui nous garantit les conditions de vie, etc. Voyez-vous, mes très chers frères, la loi de Moïse, nous dit saint Paul, nous a été donnée donné au peuple d'Israël, plus précisément, comme un pédagogue, c'est-à-dire un professeur qui révèle la concupiscence invincible qui est dans le cœur de l'homme. C'est un pédagogue qui révèle la nécessité d'un rédempteur. Et même, c'est un pédagogue qui, et ça rentre dans la pédagogie divine, par ses commandements, par ses interdictions, par ses prescriptions, souligne et presque rend victorieuse la concupiscence, exaspère en quelque sorte le péché par des commandements dont on perçoit la légitimité, dont on perçoit la bonté, la sainteté, mais que l'on est incapable d'observer. Alors, pas tous en même temps, on peut en observer certains, et d'autres moins, plus facilement, d'autres moins, ça dépend un petit peu du tempérament, ça dépend de la bonne volonté du moment, bien entendu. Mais la loi dit, maudit soit celui qui transgresse un seul de ses commandements. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi de Moïse, voyez-vous, mes très chers frères, est le pédagogue qui nous rend palpable la nécessité d'un rédempteur. Si Dieu a laissé l'humanité si longtemps sans rédempteur, si Dieu a laissé son peuple même si longtemps sans lui donner le Messie, c'était pour qu'il prenne conscience que sans une grâce particulière venant d'une rédemption ou d'un rédempteur particulier, il ne pouvait rien faire de bon. Alors vous allez dire, mais alors qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient que des pécheurs? L'ancienne loi, souvenez-vous, c'est très simple. L'ancienne loi ne pouvait faire que des esclaves. La loi nouvelle fait des enfants. Or, nous savons que ceux qui étaient esclaves autrefois, sous les rudiments du monde, et c'est une expression mystérieuse par laquelle saint Paul désigne la loi de Moïse, ceux qui étaient esclaves autrefois attendaient un rédempteur. Donc, ils étaient esclaves, mais l'attente du rédempteur, la foi dans le rédempteur à venir, les rendait déjà participants, du moins ceux qui l'avaient, les rendait déjà participants de la rédemption à venir, sachant que lorsque le Christ est mort, eh bien, quand il eut tout accompli, il est descendu aux enfers pour faire sortir de ce lieu d'attente ceux qui, sous l'ancienne loi, avaient attendu le Messie. Voyez-vous, nous étions des enfants, dit saint Paul. De qui parle-t-il? Comment parle-t-il? De quel point de vue parle-t-il? Saint Paul ne parle pas en tant qu'ancien païen, ancien gentil. Saint Paul parle en tant que juif, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui était né et qui était né sous la loi et qui avait pratiqué la loi telle que Moïse l'enseigne. Et qui avait, par la grâce de Dieu, fait l'expérience de la nécessité du Rédempteur. Saint Paul parle en tant que juif. Or, mes très chers frères, si les juifs étaient, sous l'ancienne alliance, sous la loi, esclaves de la loi, que dire des gentils qui n'avaient même pas la loi de Moïse? Alors je sais bien qu'un certain nombre de lois des gentils ressemblent par certains côtés à la loi de Moïse, qu'il lui ait emprunté des éléments ou qu'ils en aient en quelque sorte reconstitué le contenu jusqu'à un certain point. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Ce sont des choses qui s'imposent d'une certaine manière à la raison humaine, effectivement. Mais les païens, les gentils, n'étaient pas sous la loi de Moïse, ils étaient donc sans la loi. Or, être sans la loi, c'est être dans une situation bien pire que celle de l'esclavage de la loi, sous laquelle étaient les Hébreux. Les Hébreux faisaient l'expérience de leur concupiscence et ils pouvaient désirer être amenés, par la grâce de Dieu, une grâce préparatoire, être amenés à désirer le Rédempteur. Les païens, non seulement faisaient l'expérience de leur concupiscence, mais leur loi était si mauvaise, du point de vue, le seul point de vue qui importe, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, que, je ne parle pas forcément du point de vue civil, mais leur loi était si mauvaise qu'ils s'imaginaient que, dans certains cas, renforcer cette concupiscence était une vertu. Il suffit d'ouvrir les moralistes anciens, les moralistes païens, pour se rendre compte qu'il y a une certaine fierté, il y a un certain orgueil, il y a une certaine colère, il y a une certaine, etc., ceci et cela, qui est licite, et ça fait partie de la grandeur d'âme, ça fait partie des vertus auxquelles on doit aspirer, les vertus de l'honnête homme. Donc il y a bien des choses bonnes chez les païens, mais il y en a aussi énormément de mauvaises, et c'est ça qui prime. Si les juifs étaient esclaves de la loi de Moïse, les païens n'étant esclaves de rien, ne se rendaient compte de rien. Et saint Paul nous dit, je passe sur le mot, la notion d'enfance, qui sera horriblement parodié par le positivisme au XIXe siècle, où on considère que l'humanité est dans un état d'enfance tant qu'elle est dans un état prélogique, c'est-à-dire avant l'état scientifique, etc. Enfin bon, ce sont des notions, il y aurait des choses à dire, mais ça serait plus dans le cadre d'un cours de philosophie ou de cosmologie que d'un sermon. Disons tout simplement, faisons très attention, cette notion d'enfance est très falsifiée à notre époque, mais il n'en a pas toujours été ainsi, donc nous devons toujours parler non seulement le langage de l'Écriture, mais aussi avec le sens que lui prête l'Écriture. Les Juifs étaient donc dans un état d'enfance, sous ce tuteur et ce curateur de qu'est la loi de Moïse, jusqu'à ce que fut venue la plénitude des temps. Mais la plénitude des temps, seuls les Juifs pouvaient la discerner. Alors évidemment, les païens n'étaient pas sans percevoir aux alentours de la naissance de notre Seigneur que quelque chose se passait. On connaît les vers de Virgile, etc., bien entendu. Mais tout ceci est très flou, tout ceci est très trouble, et tout ceci est quand même inspiré de la religion des Hébreux. Maintenant, il se trouve que seuls les Hébreux étaient capables de connaître que la plénitude des temps était venue. Lorsqu'Hérode a interrogé les scribes et les docteurs de la loi, ils lui ont dit où, quand, comment devait naître le Messie. Le Messie est né, c'était la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti lui-même à la loi. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé, c'est-à-dire qu'il est le Verbe de Dieu, il est vrai Dieu, et il est vrai homme, comme vous le savez, c'est la base de la foi chrétienne, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, il est vrai homme par son humanité qui a été réellement tirée du corps de la très sainte Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Cet homme, ce vrai homme, fils de Dieu, était assujetti à la loi. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le Christ n'aurait jamais pu avoir lieu, le Messie n'aurait jamais pu être un non-juif. Il devait descendre de la famille de David. Il devait être un descendant d'Isaïe, comme David. Assujetti à la loi, et pourtant, il n'avait pas besoin d'être assujetti à la loi, puisqu'il était sans concupiscence. Il a été volontairement assujetti à la loi, car lui seul pouvait la réaliser. La loi, pour le Christ, ne lui servait de rien, car il était innocent, elle n'avait rien à lui apprendre sur lui-même. Et il était celui qui a donné la loi à Moïse sur le Sinaï. Il a réalisé lui-même, le Christ, le dessein rédempteur de Dieu, qui ne s'inscrivait pas dans la semaine de la création, c'est-à-dire dans les six jours de la création auxquels on ajoute le septième, mais dans le temps du huitième jour, le temps de la seconde création, ou de la recréation spirituelle, qui est le temps du huitième jour, qui est le temps de l'éternité. C'est pour cela que le Christ a montré qu'il était le maître du sabbat en faisant des choses, certaines choses précisément, de façon très précise le jour du sabbat, scandalisant les juifs à juste titre d'une certaine manière, car c'eût été un péché s'il n'avait pas été Dieu, et manifestant qu'il était le législateur d'Israël, et c'est comme ça que nous l'avons invoqué dans les grandes antiennes de l'Avent. Il est le législateur, il est Dieu, il est celui qui vient accomplir sa propre loi, y mettant un terme sous un certain rapport et l'amenant à sa perfection sous un autre. Il y a donc, voyez-vous, mes très chers frères, ici quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que l'œuvre du Messie ne peut se comprendre que dans la mesure où on comprend la nature et la fonction de la loi de Moïse. Si l'on est un pur païen et que l'on entend parler du Messie, on ne comprendra ce dont il est question que dans la mesure où on aura compris ce dont il s'agit dans l'Ancien Testament. Sinon, on ne comprendra rien, et c'est là le drame. Alors passons à notre deuxième point. Examinons maintenant la double efficace du sacrifice du Messie, tel que nous l'enseigne saint Paul. Tout d'abord, il nous dit que le Christ est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Qu'est-ce que ça signifie? On a tendance à passer assez rapidement sur ce genre d'affirmation, parce que nous, les gentils, les descendants des païens, cela ne nous concerne pas tellement. Nous n'avons jamais été sous la loi de Moïse. Nos pères n'étaient pas sous la loi de Moïse. Donc, passons vite, ça ne nous concerne pas. N'allons pas trop vite. Et comprenons bien. Le Christ est venu fondamentalement pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est-à-dire que le Christ n'est venu que pour les tribus, pour les enfants perdus, les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque la femme syrophénicienne s'est approchée de lui pour lui demander de délivrer sa fille qui était possédée, notre Seigneur a affecté de la mépriser. Il ne lui a pas répondu, à tel point qu'elle criait derrière eux et qu'elle lui demandait un peu d'attention. Et les disciples, lassés de voir cette femme crier derrière eux, dirent à notre Seigneur, renvoyez-la parce qu'elle fait du bruit. Et notre Seigneur, que dit-il? Il ne dit pas, ah ben oui, excusez-moi, je n'avais pas vu, etc. Non. Il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Ces paroles sont d'une dureté extraordinaire. Notre Seigneur n'est jamais sorti de la Terre Sainte. Notre Seigneur a parcouru en tous sens, d'un bord à l'autre bord, la Terre Sainte. Il n'est jamais sorti de la Terre Sainte. Pourquoi? Parce que notre Seigneur n'est pas venu pour les païens. Alors, vous allez dire, mais attendez, alors qu'est-ce qu'on fait là? Attendez, comprenons, posons le fondement. Il n'est pas venu pour les païens. Et lorsque les païens comprennent qu'ils sont comme des petits chiens mangeant des miettes sous la table des fils, et qu'ils demandent humblement, par une inspiration divine salvatrice, bien entendu, à notre Seigneur de leur faire part de ces petites miettes, alors que dit notre Seigneur, « Ô femme, ta foi est grande !» Notre Seigneur n'a pas méprisé univoquement cette femme. Il a agi, il a fait comme une petite scénette, en quelque sorte, si j'ose dire, pour nous faire comprendre l'ordre des choses. Notre Seigneur n'est pas venu pour tous les hommes. Notre Seigneur est venu pour les Juifs. Notre Seigneur n'est pas venu pour tous les hommes qui étaient dans la misère. Notre Seigneur est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Or, les prophètes avaient annoncé déjà depuis longtemps qu'ils sauveraient aussi les gentils. Mais notre Seigneur est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui ont reçu la foi en son nom, eh bien, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est venu pour les Juifs d'abord, et lorsque ceux-ci l'eurent providentiellement rejeté, alors le salut fut étendu aux nations, non pas par le fait que le Christ est allé chez les nations pour leur prêcher l'Évangile. Notre Seigneur a tout accompli dans la Terre Sainte. Il est né et il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, au centre du monde. Il a tout fait et ensuite il a dit à ses apôtres, allez d'abord en Judée, ensuite en Samarie, où on trouvait des sortes de demi-juifs, et ensuite jusqu'aux extrémités du monde. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, c'est une erreur fondamentale que de dire que Dieu, ayant aimé l'humanité, a envoyé son Fils pour leur parler de son amour et qu'ils ont mal réagi, mais enfin, quand même, il y en a certains qui ont bien compris et qui ont voulu, bien voulu. Mais quelle cacophonie, mes très chers frères. Ce n'est pas absolument faux, mais dit comme ça, c'est totalement faux. C'est presque un contresens. Nous ne pouvons, nous, les descendants des gentils, l'Église de la gentilité, nous ne pouvons être sauvés que dans la mesure où nous sommes agrégés à l'Israël de Dieu, au peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu n'est pas un peuple contre le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est les descendants d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham, comme l'expliquera saint Paul ailleurs. Notre Seigneur est donc venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est par le moyen des apôtres, avons-nous dit, que les gentils ont été évangélisés. C'est bien connu. Maintenant, il se trouve qu'il était nécessaire que les apôtres aient d'abord été sous la loi, car seuls les juifs, mes très chers frères, je le dis très, 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 je le dis d'une façon, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, seuls les juifs peuvent saisir en profondeur le sens de la rédemption. Seuls ceux qui sont nés sous la loi, qui ont observé la loi de Moïse, peuvent comprendre à quel point le Rédempteur est une nécessité. Ceux qui n'ont jamais été sous la loi de Moïse ont eu en quelque sorte un raccourci de compréhension de ce qu'était la concupiscence, mais ils n'ont jamais fait l'expérience profonde de la concupiscence telle qu'elle se manifeste sous la houlette terrible de ce précepteur, duquel saint Paul dit que la loi est sainte, juste et bonne. C'est un terrible asservissement, mes très chers frères. La loi de Moïse n'est pas une loi d'un législateur humain quelconque. Elle est une loi qui vient de Dieu, elle est la loi qui vient de Dieu, elle est un terrible asservissement, elle est même, sous un certain rapport, et nous ne développerons pas, mais elle est la clé du dessein créateur divin. Tous ceux qui ont voulu dominer sur le monde, sans elle, se sont heurtés à une porte fermée. D'où le caractère éphémère de tous les empires, les royaumes qu'on a vus naître et périr tout au long de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui ignorent, tous ceux qui rejettent ou tous ceux qui désobéissent aux maximes de l'Évangile sont condamnés par la loi de Moïse, même s'ils ne lui sont pas soumis. Et comme la plupart ne lui sont pas soumis, je pense aux païens, mais aussi aux mécréants, aux mauvais chrétiens, aux christianoïdes, etc., comme ils ne sont pas soumis à la loi de Moïse parce qu'ils ne sont pas juifs, alors, voyez-vous, mes très chers frères, ils sont dans une situation qui est terrible, beaucoup plus terrible qu'ils ne peuvent l'imaginer, et personne ne s'en rend compte, et pourtant c'est là la doctrine chrétienne. La loi de Moïse est la main de fer qui dénonce et qui, en même temps, avons-nous dit, qui excite le vieil homme. L'Adam déchu, la nature rebelle, la volonté propre d'une créature frappée de perdition, comme nous l'avons vu dans la préface de l'Avent il n'y a pas si longtemps. Tous ceux qui ne sont pas libérés par le Christ sont condamnés par la loi de Moïse, qu'ils lui soient soumis explicitement ou qu'ils ne lui soient pas soumis. La loi est sainte, juste et bonne. Mais c'est le pécheur qui est corrompu, voyez-vous, mes très chers frères. Nier ou amoindrir l'étendue et la profondeur de la chute, c'est se condamner à ne plus comprendre l'efficace de la rédemption. Et je vous donne à noter quelque chose. C'est que ceux qui n'ont pas vécu sous la loi n'ont qu'une idée imparfaite, en général, de la malédiction dont ils ont été rachetés. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est-à-dire que les gentils, c'est-à-dire les chrétiens tels que la quasi-totalité des chrétiens tels que l'Église est remplie d'ex-gentils, c'est pour ça qu'on dit l'Église de la gentilité, non pas qu'elle soit païenne, mais elle est remplie beaucoup plus de gentils que d'ex-gentils que d'ex-juifs. Donc, il se trouve que l'Église de la gentilité, dans la personne de ses docteurs, a toujours pris un soin extrême à scruter l'Écriture, à comprendre l'Ancien Testament, pour ne pas dire le nouveau, et à intelliger les choses de l'intérieur, de peur que, par ignorance, elle en vienne à méconnaître le prix de sa rédemption. C'est pour cela que, des fois, on est étonné, les modernes sont très étonnés, les modernes qui sont toujours étonnés par toutes sortes de choses et justement qui devraient les édifier, ils se disent, mais comment c'est possible que pendant tant de siècles, jusqu'à la fin, jusqu'au XVIIe siècle, on a scruté l'écriture, parce que après il y a l'exégèse moderne qui arrive, c'est différent. Mais on a scruté l'écriture, on a analysé, on a commenté le moindre trait de lettre de l'Ancien Testament, et pas simplement du nouveau, mais pourquoi tant de choses alors que toutes ces choses-là sont périmées, sont passées, etc. Alors déjà, faisons très attention parce qu'il faut faire des distinctions. Et ensuite, voyez-vous, mes très chers frères, c'était pour ne pas oublier. Pourquoi ? Parce que saint Paul nous apprend que le jour où nous oublierions le prix de notre rédemption, où nous oublierions la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, l'aspect terrible de l'ancienne alliance, l'aspect non moins terrible de la nouvelle, alors nous nous approcherions du moment de notre apostasie, et cette apostasie a été consommée, mes très chers frères. Je ne pense pas que ça soit très difficile de s'en rendre compte, tout le monde est plus ou moins d'accord. Après, il y a des divergences sur les interprétations, il y a une interprétation bonne et puis il y a des interprétations fausses. Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que c'est que tous ceux qui ignorent la doctrine de l'Ancien Testament n'ont qu'une idée imparfaite de la malédiction dont ils ont été rachetés. Je dirais même plus, ceux qui blasphèment la loi de Moïse s'exposent, quand je dis s'exposent, c'est un euphémisme, s'exposent à mépriser en toute logique la grâce du Christ. Si la loi de Moïse est quelque chose, somme toute, d'absurde, d'idiot, d'arbitraire, comme on dit, alors la loi du Christ ou l'œuvre du Messie, qui lui est entièrement liée, l'est de même. Et curieusement, vous vous apercevez bien souvent chez les néo-marcionnistes que eh bien, ce sont des gens qui se font fort de mépriser la loi de Moïse parce que les Juifs, etc., etc., et qui en réalité méprisent aussi le Christ, et se sentent plutôt romains, gallo-romains, ou autres celto-romains, ou autres paganismes de ce genre-là. Voyez-vous, mes très chers frères, ils ont consommé, individuellement, ils ont consommé l'apostasie. L'apostasie a été consommée au siècle dernier. Nous le savons, la néo-église n'est pas l'église, elle est le corps des chrétiens, ex-chrétiens, l'église de la gentilité, qui a apostasié. Et nous ne devons rien avoir à faire avec elle, et quand on en sort, eh bien, on en sort pour devenir catholique, car on ne l'était pas jusque-là. On ne l'était plus. Voilà le premier aspect de l'efficace du sacrifice du Messie. Le Messie est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi et pour faire étendre le salut à ceux qui n'ont jamais été sous la loi. Nous allons dire encore un mot maintenant, c'est notre troisième et dernier point. La deuxième chose, c'est que, et nous donner de recevoir l'adoption des fils. La paternité divine, voyez-vous, est en quelque sorte la toile de fond de l'Ancien Testament. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, etc., dit notre Dieu à propos du Messie. Dans les psaumes, il se trouve aussi, donc tout ceci est dit clairement. Maintenant, évidemment, la notion de paternité divine ne prend tout son sens que par la venue du Messie. Le Messie n'est pas simplement un prophète envoyé par Dieu, il est le Fils de Dieu. Après nous avoir parlé à de fréquentes reprises par des prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a envoyé son propre Fils. Il a envoyé ses prophètes, ils les ont plus ou moins bien accueillis, plus ou moins martyrisés, et à la fin, il a dit « J'enverrai mon Fils ». Et ils l'ont tué, ils l'ont jeté hors de la vigne. Voyez-vous, mes très chers frères. Néanmoins, c'était son fils. C'est son fils. La paternité divine ne prend tout son sens, affirmée dans l'Ancien Testament à maintes reprises, et tant pour le peuple d'Israël, en fait, pour le peuple d'Israël ou pour le Messie, prend tout son sens donc, par la venue du Messie, vrai homme, fils de l'homme, mais fils de Dieu. Cette doctrine de la paternité divine est si typiquement chrétienne tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que l'islam la nie absolument. Dieu n'a pas de fils. Je lisais l'autre jour un petit texte qui disait Dieu est trop sublime pour avoir un fils. Donc c'est une chose magnifique pour un homme d'avoir un fils, et Dieu serait privé de cette gloire d'avoir un fils. Et quel est-il le dieu de l'islam? C'est le dieu d'Aristote. En réalité, c'est le dieu d'Aristote augmenté d'un certain aspect miséricordieux, qui est en fait une sorte de bonté tout à fait infondée et très étrange en réalité. Donc, c'est la doctrine de la paternité divine est si typique du christianisme que l'islam n'a ni radicalement pour se départager son hérésie de la vérité. Donc, Deo gratias. Dieu devait adopter son peuple en lui donnant un cœur nouveau. Voyez-vous, mes très chers frères, donc il y a quelque chose de vrai quand les Juifs disent actuellement que Dieu a fait une alliance spéciale avec le peuple d'Israël, car de toutes les nations, c'est le seul peuple qui est accepté d'obéir au commandement. Oui, mais Moïse dit à ce peuple, jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné un cœur nouveau. Et il leur promet le Messie à venir. L'adoption, ou plutôt l'élection du peuple d'Israël ne doit pas être confondue avec sa rédemption. Dans dans l'élection est contenue la promesse de la rédemption. Mais il se trouve que élection et rédemption sont deux choses qui sont distinctes. Dieu ne donne pas ce cœur nouveau sans qu'il ait été obtenu de lui par l'oblation expiatoire de son fils au calvaire. Sinon, le dieu du christianisme serait une sorte de dieu musulman qui dirait « Eh bien, les hommes, puisque vous avez péché, eh bien, je vous pardonne, et cerise sur le gâteau, je vous donne un cœur nouveau. » « Ah, un cœur nouveau, c'est formidable, etc. » Mais pas du tout. Un cœur nouveau, si j'ose dire, ça se mérite, mais l'homme ne peut plus mériter. Il faut donc que quelqu'un le mérite pour lui. Dieu le Créateur est infiniment offensé par l'homme, et Dieu le Créateur, comme nous l'avons expliqué il n'y a pas si longtemps, Dieu ne peut pas prendre sur lui de pardonner ou d'aller au-delà d'une offense qu'on lui a faite. Cette offense, elle est faite à sa qualité divine, et il ne peut pas refuser à sa qualité divine l'exigence d'exiger en toute justice que cette offense soit expiée. Comment nous donnera-t-il donc le cœur nouveau dont parle Moïse, sinon par l'oblation de l'homme-Dieu, le Fils éternel de Dieu, le Messie qu'il nous a envoyé, en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, commencé par le sacrifice de l'agneau pascal, qui tenait leur efficace en quelque sorte par anticipation. Ils ne produisaient rien en eux-mêmes. Ils signifiaient le sacrifice unique qui devait plaire au Père éternel et nous réconcilier avec lui, réconcilier son peuple avec lui et agréger les nations au peuple de Dieu. C'est par les mérites du Christ que Dieu nous donne un cœur nouveau. Dieu, voyez-vous, mes très chers frères, et bannissons à tout jamais, si c'est encore le cas, si ce n'est pas déjà le cas, mes très chers frères, mais bannissons à tout jamais cet abus de langage, Dieu n'est pas le Père de l'humanité. Dieu n'est pas le Père des hommes en général. Des fois, on dit, il est Père de tous parce qu'il est Créateur. Bon, d'accord, si vous voulez, mais alors un Père très général, et ce n'est pas vraiment un vrai Père, c'est un Créateur, c'est... Le Créateur n'est pas tout à fait le Père, et celui qui a façonné une statue n'est pas le Père de cette statue comme il est le Père des enfants qu'il a eus de sa femme. Voyez-vous, que sa femme lui a donné. Donc, Dieu n'est pas le Père de l'humanité. Dieu n'est pas le Père des hommes. Les hommes ne sont pas fils de Dieu. Les hommes auxquels a été donnée la grâce du Christ deviennent fils de Dieu dans le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu. On ne peut être fils de Dieu, enfant de Dieu, que par le sang du Christ, donc par le baptême, donc dans l'Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Dieu ne déteste, l'homme le plus vertueux du monde est détesté par Dieu. Pourquoi? Parce que sa vertu, sa justice, n'est qu'un vêtement sale et taché aux yeux de la justice éternelle de Dieu. Vous le savez, mes très chers frères. D'ailleurs, la qualité d'enfant de Dieu est tellement verticale, tellement importante, tellement spirituelle, qu'elle se perd, quant à l'efficace du moins, par le péché mortel. Car la qualité d'enfant de Dieu, quand quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, c'est qu'il est en état de grâce. Or, il ne peut y avoir que ceux qui sont revêtus du sang du Christ, qui peuvent être en état de grâce. Bien sûr, le baptême donne une qualité pérenne d'enfant de Dieu, dans le sens où il imprime dans notre âme un caractère qui fait que nous sommes véritablement enfants de Dieu et que nous sommes distincts de ceux qui n'ont pas reçu ce caractère. C'est vrai, mais à quoi sert ce caractère, sinon à être jugé plus sévèrement si on en perd l'efficace ? À quoi sert-il à un page d'avoir les armes de son roi sur sa casaque si c'est pour se rouler dans la boue ? Il sera fouetté plus sévèrement que quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui mérite d'être corrigé. Voyez-vous, mes très chers frères ? Le prix de l'adoption, il est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi et nous donner de recevoir l'adoption des fils. Le prix de l'adoption est sans cesse en danger d'être perdu de vue par le gentil, par les gentils que nous sommes. Les gentils, c'est-à-dire les descendants de païens que nous sommes. D'où, voyez-vous, mes très chers frères, ce double devoir de reconnaissance que nous avons, nous, les gentils, double devoir de reconnaissance, premièrement pour la rédemption, et deuxièmement pour son octroi sans promesse préalable. Nous étions sans Dieu, sans espoir dans le monde, étrangers aux alliances, étrangers à la promesse, sans promesse. Nous n'attendions rien, car Dieu ne nous avait rien promis. Mais parce que Dieu a voulu sauver un certain nombre d'élus parmi la gentilité, pour une raison qui ne nous est pas accessible, mais que nous ne pouvons qu'expérimenter par la grâce de Dieu, alors il nous faut reconnaître, mes très chers frères, que nous devons être reconnaissants, comme les Juifs sont reconnaissants pour la promesse accomplie, et nous devons être doublement reconnaissants parce que, à nous, nous avons reçu l'accomplissement de ce qui nous avait jamais été de ce qui ne nous avait jamais été promis. Le Rédempteur, voyez-vous, mes très chers frères, ne nous lave pas seulement de nos péchés, la rédemption ne nous lave pas seulement de nos péchés, elle nous réconcilie avec Dieu, elle fait de nous les enfants de Dieu dans le Fils de Dieu. Nous sommes la postérité du Messie, mes très chers frères, selon la prophétie d'Isaïe. Le cri des fils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est celui du Saint-Esprit en eux. C'est pour ça que saint Paul dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, pater, père ». Abba, c'est le mot araméen pour « père ». Quelle plus grande reconnaissance, mes très chers frères, que de vivre dans l'amour et la crainte respectueuse de notre Père Céleste en Jésus-Christ. Si vous m'aimez, dit notre Seigneur, vous garderez mes commandements. Un auteur nous dit, l'évangile, c'est-à-dire le fait d'obéir à l'évangile, l'évangile est la pierre de touche qui fait connaître ceux qui sont véritablement à Dieu. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes vraiment reconnaissants pour la rédemption gratuite, doublement gratuite, si j'ose dire, qui nous a été donnée à nous, gentils, eh bien, nous devons être en quelque sorte doublement reconnaissants. Nous devons nous attacher à l'Évangile très fermement, d'autant plus qu'il ne nous avait jamais été promis. Le Rédempteur ne nous avait jamais été promis. Ne craignons pas, mes très chers frères, de dire « Abba, Pater » à notre Dieu, mais craignons plutôt d'offenser le Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même en son Fils, en par le sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.